J'étais parrain de la section cette année, je leur disais, apprenez quelques mots magiques, lorsque vous rencontrerez le monde du fer, c'est-à-dire des entrepreneurs, des artisans, il faut dire d'abord, s'il vous plaît, on n'apprend pas ce mot, s'il vous plaît, et puis le deuxième, merci, on a oublié de dire merci aux gens qui font. Moi je suis émerveillé par ce que les gens font, je décide des choses, je ne sais pas les faire. Je suis dans l'obscurité complète, je vais les mettre dans la part obscure de la matière, je ne sais pas où on va. Ils arrivent toujours à le faire. Il faut dire s'il vous plaît, il faut dire merci. Mais si ça ne suffit pas, si ça ne suffit pas, alors là, il ne faut pas hésiter. Vous savez, comme un jeune diacre, au moment de l'ordination en rang de prêtre, en soutane blanche, le corps en croix, à plat ventre, devant celui qui fait, l'artisan, l'entrepreneur, et lui dire pitié. Oui, pitié. Pardonnez-moi, je ne sais rien. Architecte, je ne sais rien. Et si ça ne suffit toujours pas, alors là, on va revenir à la position de génuflexion et pratiquer la fellation idéologique à outrance. La relation entre le travail et la beauté est extrêmement signifiante, extrêmement claire. Je vais donner un exemple. Par exemple, est-ce que vous savez qu'un mètre carré de Versailles, avec l'empreinte environnementale inférieure à un mètre carré de logement social, c'est incroyable. À la clé d'un mètre carré bâti à Versailles, il y a un travail manuel, permanent, qu'on peut qualifier d'artistique, on peut lui donner d'autres définitions. Notre responsabilité d'architecte, j'ai presque envie de dire notre responsabilité christique, je dis bien christique, c'est d'essayer d'honorer ce métier avant le temps qui nous honore. Vous voyez, j'ai déjà été mis en forme par James Woody, qui commence déjà à m'obliger à transformer intuitivement ce que j'ai à vous dire en prêche, pratiquement. Hein. Mais c'est un peu inévitable, il ne fallait pas me chercher, James Woody. Hein. Surtout après Mick Jagger, parce qu'il est quand même, ce que vous avez entendu, c'est un des plus grands morceaux de poésie rock du XXe siècle. Et qui parle du diable. Donc, comme on fait ce métier, me paraît quelque chose de capital. Il est là, dire ça, c'est rappeler la nécessaire dignité que nous devons donner à ce métier. C'est pas lui qui nous donne la dignité, c'est nous qui devons apporter à ce métier. Nous avons une responsabilité politique, économique et sociale. Oui, nous avons davantage de devoirs que d'autres. De nos droits. Je suis, avant de vous dire quel est mon point de vue sur l'architecture, je suis quand même obligé d'attaquer certaines dérives contemporaines, celles de la modernité. Moi, je suis un ennemi du mouvement moderne, malgré ses erreurs de gloire. On connaît les résultats, on connaît les conséquences. Le mouvement moderne parle de déchirure. De rupture avec la perspective historique, avec la mémoire historique, ça nous fait amener très très loin. On voit les égarements, ce que sont les déchirures de la cité aujourd'hui. Et il est porté par une idéologie de bistrot, un moralisme de braguette, comme on pourrait appeler le minimalisme. Vous savez ce que c'est le minimalisme aujourd'hui? C'est la jonction d'un mur blanc avec un sol gris à perpendiculaire, avec un trou dedans. Évidemment, c'est le rêve absolu pour le promoteur, l'architecte minimaliste. C'est le rêve absolu aussi pour faire les marges bénéficiaires les plus énormes, adossées à la perte de savoir, à la perte de mémoire, à la perte de métier. Figurez-vous qu'une façade au XIXe siècle, il fallait 100 mots pour décrire ce qui se passe du sommet de la toiture jusqu'au rez-de-chaussée. Aujourd'hui, s'il y a 3 ou 4 mots, c'est grandissime. Si nous avons perdu 96% des mots, si nous avons perdu 96% des métiers, des noms de métiers, des mémoires de métiers, à qui la faute? À qui la faute? Je pense à la faute de l'économie du marché, mais aussi à la faute des architectes. Nous avons une responsabilité accablante, à la faute aussi de l'enseignement et au manque de générosité de l'enseignement. C'est pour ça que je vous ai dit cette phrase en latin, S'il y avait davantage de générosité, nous serions davantage armés pour le combat. Une des idoles des architectes, c'est Adolf Loos, à qui l'on attribue la phrase « L'ornement est un crime ». Vous imaginez, l'ornement est un crime. Ici, on est sur une scène protestante dans laquelle l'ornement est censé être suspect. Je ne suis pas si certain que ça. L'ornement est une nécessité, l'ornement est un récit, l'ornement est adossé à une croyance, l'ornement est adossé à des intuitions, à une épaisseur et même un refus de souffrance, ça parle de ça. Et d'ailleurs, lorsque Adolf Loos dit l'ornement est un crime, je dois, après avoir un peu enquêté, découvrir que c'était Wittgenstein, philosophe viennois, de la période la plus géniale de la période de la sécession, qui avait commandé une maison à Adolf Loos et qui lui disait « Je veux une maison sans récit, sans décor, très sort, car l'ornement est un crime. » Cette phrase a fait un voyage destructeur dans notre jeunesse architecturale. C'est terrible. Elle a détruit. Mais au moment où elle détruisait, elle consommait l'éloignement avec justement la nécessité du récit, celle qui nous permettait d'avoir un voyage collectif, comme architecte, comme bâtisseur, tous ensemble. On a perdu le fil. Au point où nous avons été totalement dépassés par la situation. Donc, cette rupture qui est celle de l'histoire du monde moderne, j'en constate les méfaits tous ensemble, je crois, nous sommes assez lucides pour voir les égarements, mais en termes de bilan sociétal, on n'est pas sur une vision sociologique du monde, mais tout de même, en termes de bilan sociétal, c'est catastrophique, parce que la question du sens, qui est le minimum que l'on doit à la matière, la question du sens est majeure. Elle est majeure. C'est pour ça que je pense souvent de croyance. La notion de croyance, c'est très flou. C'est très flou, la notion de croyance. C'est très abstrait. On n'arrive pas à contenir quelle idée de croyance lorsqu'on dessine, lorsqu'on bâtit. Moi-même, je suis un architecte extrêmement paranoïaque, extrêmement anxieux, et l'art de création m'a fait peur. Et j'ai très très peur. Lorsqu'on dessine, j'ai toujours peur de me tromper, j'ai toujours peur de mal faire, et surtout j'ai peur de me raconter des mensonges. Des mensonges, vous imaginez? Quelle anxiété est celle de l'architecte devant l'idée de construire, davantage que devant l'idée du dessin, parce que le dessin, c'est rien le dessin. C'est le passage à l'acte qui pose problème. C'est le passage à l'acte qui est psychopathe. C'est celui-là qui est irréversible. Un peu comme l'avion qui arrive en bout de piste, à un moment donné, il faut le faire décoller. Et au moment où il décolle, c'est trop tard. C'est trop tard pour avoir des remords, c'est trop tard pour avoir une mauvaise conscience. Mais les remords et la mauvaise conscience sont toujours là. Et là réside le charme de ce métier, c'est-à-dire la difficulté existentielle de l'architecture comme de l'architecte. Là réside tout l'intérêt de cette discipline. Une des difficultés aujourd'hui existentielles de ce métier, c'est la dépendance technologique. La dépendance technologique, pour donner un exemple, vous avez tous entendu le mot high-tech. C'est ce que c'est que high-tech, c'est un très haut niveau de consumérisme avec un très très petit niveau d'intelligence mathématique. C'est très anglo-saxon d'ailleurs. Faut que ça brille, faut que ce soit brûlé. Mais c'est que des bouts de ferraille tendus, comprimés, c'est pas assez compliqué. Mais travailler avec une matière liquide, du béton par exemple, c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'il y a un nombre infini de configurations dans la physicalité de la matière qu'offre le béton. Le béton qui existe depuis la Rome antique, le Panthéon est fait avec du béton. Je vous parle de cette matière, le béton, parce que aujourd'hui, selon moi, on le voit dans les projets, c'est découpé dans le béton. Formidable. Bon, on a pensé que c'était un dojo de karaté, je ne sais pas quoi, mais bon. Mais
Il y a dans cette matière, au-delà de la physicalité, il y a un secret. Il y a quelque chose de toujours inattendu, un degré de résistance. C'est une matière qui résiste. C'est une matière qui a le diable en elle. Oui, le diable est dans l'étranger. Alors, de temps en temps, j'écoute, je mets l'oreille contre un mur du gonflet, je tape pour voir ce qu'il y a dedans. Évidemment, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de réponse. C'est une matière secrète. Il y a dans cette matière probablement à minima une métaphysique, et bien au-delà, si le corps est ouvert, une bonne bouteille de vin en passage, une mystique. Et ça, j'en ai la conscience lorsque j'ai vraiment très bu, vous voyez. Pardon. Il faut se laisser embarquer dans les errements de la raison pour comprendre de quoi parle cette matière. Parce qu'elle a des milliers d'années derrière elle de raison, de passion, mais aussi de secret. De secret. Sur la question des secrets, quand j'avais 13 ans, moi je suis originaire de Camargue, le cœur de la Camargue, pour Saint-Louis-du-Rhône. Je dis ça pour François Fontès, qui n'est pas d'accord avec moi, mon ami François. Ah oui, parce que chez lui, vous savez qu'il y a. La préfecture Marie-Madeleine, on avait la seule dune de Camargue chez mon ami François Fontès, et donc François Fontès est persuadé que Marie-Madeleine était chez lui à sa propriété. Et moi j'ai une photo du 19e qui montre Marie-Madeleine débarquée sur la roche éclate de chez moi à Cassis. Donc ça fait l'objet d'une dispute théologique et géographique sans fin. Mais bon, je reviens à cette histoire. À ce souvenir, quand j'étais enfant, quand j'avais 13 ans, je pense, je devais être en classe de 4e, j'avais déjà rendu le CM2, j'étais dans l'handicap, j'étais autiste, je vivais entre un canal et un étang, il n'y avait pas de télévision, ma culture se nourrissait de thermoposte, j'ai vu le garabit, surtout dans les 9e, j'ai découvert l'autisme avec la loupe en dans les 9e, des choses comme ça. Et puis donc, quand j'étais très mauvais, voilà qu'un monsieur communiste à la retraite m'a donné des cours de maths et de géométrie à 6h30 le matin dans son HLM de la cuisine, la cirée, la banque dessus, il ouvrait le frigo, il s'est servi à faire le manga, il m'en comprenait pas, mais c'était normal, je m'en ai jamais osé de manger comme ça, j'étais moins qu'un moustique, j'étais en dessous du tas de moustique et le fourmi. Et à ce moment-là, 6h30, 7h30 le matin, et après je suis parti à pied au collège. Et un jour il me dit, Rudy, il me dit, la géométrie, c'est l'art de raisonner juste sur des figures fausses. Imaginez, il fait nuit, c'est l'hiver, dans la cuisine, vous n'avez pas déjeuné, tout va bien. La géométrie est l'art de raisonner juste sur des figures fausses. À ce moment-là, c'est comme une balle qui rentre au ralenti et traverse la voie crânienne quand elle est au ralenti. Et je me suis dit ce jour-là que tout ce que je voyais était faux, que la réalité n'était pas là, qu'elle était ailleurs. Et puis, je me suis dit aussi, la réalité, mais la réalité, c'est pas la vérité, ou la vérité. Et vous imaginez, je suis un adolescent, moi, cette complexité métaphysique, réalité, vérité, c'est pas vrai. Et puis après, j'ai découvert, puisque j'ai pu faire des études d'ingénieur, il m'a sauvé d'ailleurs, hein, ce monsieur Jean, il m'a sauvé. J'étais confiant en tout, il m'a sauvé. Et grâce à lui, je peux faire des études d'ingénieur, je suis fait, etc. Il m'a sauvé. Et puis, évidemment, en raisonnant sur la question de la géométrie, puisque le pasteur m'a parlé, c'est marrant que vous ayez parlé de la géométrie. C'est quelque chose qui m'a initié, personnellement. La géométrie, qui est quand même une des bases essentielles de la mathématique, la géométrie repose sur des croyances. Parce que vous vous rendez compte, les théorèmes, les axiomes, les postulats, comme en mathématiques, tout ça ne tient, tous les échantillonnages technologiques. Le raisonnement scientifique ne tient que sur des croyances. Pasteur, ça veut dire que c'est des croyances. Toute l'école mathématique française, qui est aussi riche que l'école mathématique américaine, on est fils, ne tient que sur des croyances. Et un jour, je parlais avec mon fils de mathématicien, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pensait du théorème que deux droites parallèles ne se rencontrent jamais. Et il me dit l'ennui, c'est que personne n'est allé aux extrémités pour vérifier. Mais là est le pragmatisme qui détruit totalement nos croyances et nos certitudes raisonnées. Et c'est assez effrayant. Il faut être très prudent. Il faut être extrêmement prudent pour ça. Parce que on avance dans le brouillard, on avance, comme une fois je l'ai dit, dans l'obscurité, avec des mains dans la part obscure du monde, de la matière, et puis il faut y aller, hein, il faut prendre des décisions. Donc je pense que la mémoire est déjà dans la matière. Qu'est-ce qui se passe avec la chute? Je parle pour les vous, alors. Hein? Vous voyez, là, c'est mon instance. Cette idée que la mémoire soit dans la matière est quelque chose qui me trouble beaucoup. Juste à considérer que le raisonnement est déjà dans la matière avant même que nous en ayons percé les secrets. Puisque le raisonnement que nous avons échafaudé dans la manière de réfléchir à la matière sont des raisonnements qui s'adossent à des postulats, des théorèmes, des croyances mathématiques, physiques, géométriques, etc. Donc vous imaginez le bazar. Qui part en premier, la matière ou le raisonnement? Bon, peut-être que je dis des bêtises, Jean-François enregistre, il va me ressortir, non, bon, je ne sais pas, mais... Mais, je ne sais pas, avez-vous déjà songé à cette idée que tout le raisonnement sur la matière était déjà inclus dans la matière et précédé ce que votre petit esprit de petit être humain pouvait envisager? Il n'y a pas longtemps, je lisais dans un article d'astrophysique, c'est de Paul Cousset, c'est un mathématicien totalement inaccessible à l'astrophysique. C'est pire que les mathématiques à l'économie, hein, c'est du dur, là. Sur les rayons cosmiques, on pensait que le bombardement des rayons cosmiques était de type aléatoire. Et on vient de découvrir, grâce à nos astrophysiciens, que c'est orienté. Donc c'est un système linéaire. Et ce sont des rayons qui sont tous linéaires et parallèles. Supposés parallèles. Si vous imaginez des droites qui deviennent une demi-droite, parce que la droite touche le corps d'un objet, et puis la source, elle est très très lointaine, très très lointaine. Et à force de calcul, de modélisation, d'observation, et ce dépasse largement la capacité de l'observation, ils se sont aperçus qu'à l'origine de ce bombardement de rayons cosmiques, il y avait une source d'énergie colossale, non quantifiable, très très supérieure à tout ce qu'on avait imaginé jusqu'à aujourd'hui au niveau de la physique. Une masse d'énergie inquantifiable. Et donc les astrophysiciens ne savent pas comment la qualifier. J'ai lu dans la presse, joli ou tel quel, les grands astrophysiciens qui se disaient peut-être que c'est le moment de réarmer le mot Dieu, vous imaginez. J'en parle à mon fils qui est un scientifique de très haut niveau, il me dit, tu sais, le problème, c'est qu'il nous manque le vocabulaire. On n'a pas les mots pour désigner toutes les complexités. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Je veux dire que pour survivre, il nous faut encore rester un peu archaïque. Vous comprenez ce mot archaïque? Résister par l'archaïsme. C'est ça qui est savant, l'archaïsme. Les gestes quotidiens, mais également ceux de ceux qui travaillent. Voilà. C'est touchant, extrêmement touchant. Et je crois que l'idée d'archaïsme est une idée noble. Voilà. Je n'ai rien de plus à vous dire. Il n'y a plus d'image. La soirée est foutue, mais il m'a mis un bazar, le pasteur. Voilà. Et puis, quelle heure est-il, là, au fait? Vos églises, donc je suis prêt à répondre à vos questions, à vos insultes, à vos critiques.